moi j'ai enlevé les Mbujimayi au Kassai Oriental. J'ai refusé totalement ce qui
se passe. Moi c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Les experts de l'ONU ont à nouveau renouvelé leurs accusations des pays impliqués dans la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans la version finale de leur rapport, un rapport encore confidentiel, ils indexent, mis à part le Rwanda, aussi l'Ouganda, dont les soutiens matériels et en hommes qu'ils ne cessent d'apporter aux rebelles du M23 sur la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Que vous inspire ce rapport, quoique confidentiel, au moment où l'Ouganda est désigné par la CIRGL comme facilitateur au conflit? Réagissez déjà à cette question et participez à cet échange de près de 57 minutes en nous rejoignant au 081 890 43 39 ou à notre courriel pa@radiokapi.net. Merci à Pierrot et la Mégie qui assure la réalisation de cette émission, mise en onde par Dieudonné Nyangasa et présentée et coordonnée par J.R. Lungembo. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Kigali et Kampala continuent de soutenir les rebelles armés du mouvement du 23 mars M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, selon un nouveau rapport jugé confidentiel et attribué à un groupe d'experts des Nations Unies. Nous en parlons avec notre invité, professeur Dominique Wirt, qui est chercheur au Centre d'études en sciences politiques de l'Afrique centrale à l'Université de Liège. Bonjour, professeur Dominique.
Oui, bonjour. Bonjour à tous vos auditeurs.
Voilà, Dominique, la publication de cet énième rapport de l'ONU sur l'implication du Rwanda et particulièrement de l'Ouganda dans les soutiens matériels et en hommes qui ne cessent d'apporter aux rebelles du M23 met-il en cause la crédibilité de la médiation dont Kampala était chargé par ses pairs de la CIRGL?
Mais écoutez, c'est vrai que d'abord, c'est une litanie maintenant presque sans fin où l'on voit que le groupe des experts du comité 1533, le comité qui est chargé d'évaluer les sanctions éventuelles contre les auteurs des troubles à l'est du Congo, on voit que les observateurs dont on disait sur les premiers rapports qu'ils n'étaient pas tout à fait fiables et que peut-être ils pouvaient être contestés, on voit quand même aujourd'hui qu'ils confirment une fois de plus, depuis le dernier rapport qu'ils avaient publié au mois de juin, ils confirment une fois de plus en effet qu'il y a des interventions internationales dans la déstabilisation de l'est de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que le fait que l'Ouganda soit cité dans ce rapport et en même temps nommé par la CIRGL comme médiateur dans la résolution du conflit pourrait poser problème? Moi, j'ai entendu que l'Ouganda allait dénoncer et démonter le rapport avec des faits précis démontrant qu'ils ne sont absolument pas derrière le soutien du M23 dont je rappelle quand même au passage qu'ils ont changé de nom et qui s'appelle maintenant l'armée révolutionnaire du Congo. Écoutez, moi je pense qu'il faut qu'on attende de voir en effet la manière dont l'Ouganda va pouvoir argumenter sur le fait qu'il ne se sent pas du tout ni responsable ni complice d'un soutien à cette armée révolutionnaire du Congo, avant de pouvoir considérer qu'ils ne sont plus respectés et respectables dans la mission de médiation. Il faut qu'on voit aussi, me semble-t-il, les résultats du sommet de Kampala qui a lieu aujourd'hui. Et ce n'est qu'après ce sommet-là qu'on pourra voir si, en effet, Kampala et l'Ouganda, en général, sont crédibles dans ce qu'ils ont dénoncé hier suite aux accusations du rapport du groupe des experts.
Oui, nous avons tous suivi le porte-parole de l'état-major ougandais, Félix Koulaïgué, qui a rejeté, et d'ailleurs, nous imaginons que ça doit être aussi la position des autorités ougandaises, les conclusions des experts de l'ONU, en qualifiant d'ailleurs ce rapport de sottise totale.
Oui, moi je ne pense pas du tout que le rapport soit une sottise totale. Je pense que les experts qui sont nommés par le secrétaire général des Nations Unies et qui font partie de ce groupe dans le cadre du comité 1533 font un travail qui me semble tout à fait correct et tout à fait légitime. Donc je pense que c'est évidemment aussi à voir et il y a tout à fait la présomption d'innocence qui doit être maintenue dans n'importe quel acte d'accusation puisque je considère que ce nouveau rapport est plutôt un acte d'accusation qui confirme les soupçons qu'il y avait contre l'intervention ou en tout cas le fait que et le Rwanda et l'Ouganda soient quand même derrière le soutien à cette armée révolutionnaire congolaise, l'ex-M23. Maintenant, écoutez, il faut qu'on voit, comme il y a la présomption d'innocence, on va voir un peu comment l'Ouganda va se défendre, ou en tout cas va argumenter sur le fait qu'il considère qu'il n'est absolument pas d'aucune manière derrière le soutien, qu'il soit financier, qu'il soit militaire, qu'il soit même politique à ce mouvement rebelle dont on sait aujourd'hui qu'ils sont de toute façon indésirables au Congo et certainement à l'est du Congo.
Oui, nous retenons, d'ailleurs pour les auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre, c'est un rapport encore qui démarre confidentiel. Là encore, on aimerait avoir beaucoup plus de précision sur le caractère confidentiel de ce rapport, pourquoi il n'est pas encore officiel. Ben, Dominique, dans un entretien accordé aux journalistes congolais en juillet dernier, le président de la RDC, Joseph Kabila, avait dit envisager toutes les solutions pour mettre fin à la guerre, évoquant notamment des solutions politique, diplomatique et militaire ou la combinaison des trois. Alors aujourd'hui, par rapport à cette accusation de l'Ouganda, on peut dire que quelque part il y a cette démarche diplomatique qui tend vers l'échec.
Écoutez, oui, on peut évidemment considérer qu'il y a de quoi devenir impatient devant la volonté acharnée de vouloir trouver un accord politique, voire diplomatique, afin de résoudre ce conflit et puis de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais je pense que aujourd'hui, il faut maintenir malgré tout, et je peux tout à fait comprendre l'impatience de la population congolaise, surtout bien entendu celle qui est victime en premier lieu et en première ligne des exactions de ces groupes armés. Au passage, je voudrais quand même aussi signaler que on a évidemment un focus et on focalise notamment au niveau de la presse internationale et de la communauté internationale, on focalise toutes les exactions sur l'ex-M23, la nouvelle armée révolutionnaire du Congo. N'oublions pas qu'il y a d'autres groupes armés qui ne se revendiquent pas de ce mouvement du M23, mais qui font des dégâts tout aussi importants. Donc attention à ne pas non plus globaliser ou ne pas faire des amalgames en disant c'est le M23 qui est responsable de tout. Il y a d'autres groupes armés, on sait qu'il y a la FDLR, qui sont quand même encore présentes sur le territoire. On sait qu'il y a l'ex-PARECO, il y a des mouvements Maïmaï qui sont aussi Kivu et au nord Kivu actifs dans la déstabilisation et dans les violences qui sont perpétrées sur la population congolaise. Je pense qu'il faut qu'on ne mette pas tout non plus le focus uniquement sur l'armée révolutionnaire du Congo, mais ici on sait bien que c'est elle aujourd'hui qui est un des groupes rebelles militaires incontrôlés majeurs et qui commet des exactions terribles. On en a encore vu ce week-end et fin de la semaine passée, notamment même au niveau de soldats de la MONUSCO. Donc, mais voilà, maintenant je pense que sincèrement, il faut maintenir un axe diplomatique et politique. C'est encore aujourd'hui le cas avec le sommet de Kampala. Mais il est évident que au niveau des forces armées de la République démocratique du Congo, si l'option militaire doit être maintenue, il va falloir aussi qu'on revoie un peu la chaîne de commandement. J'ai vu que la motion de défiance du ministre
de la Défense,
des forces armées congolaises n'est pas passé au Parlement, à l'Assemblée nationale. Voilà, donc il est toujours en place. Je pense que il faut maintenir une forme de stabilisation dans le gouvernement congolais actuellement. Mais il est clair que les options militaires ne doivent pas être complètement exclues dans la situation qui prévaut maintenant depuis autant d'années. Et donc je crois que c'est ça qui doit faire maintenant réfléchir le gouvernement congolais, maintenant qu'on a passé le grand moment du sommet de la francophonie. Le gouvernement congolais peut se recentrer actuellement sur les affaires intérieures et régionales qui concerne la République démocratique du Congo, je pense en effet que l'interview de M. Kabila est toujours d'actualité aujourd'hui, celle du mois de juillet, disant qu'il y avait les trois options, et qu'aujourd'hui il faut maintenir, me semble-t-il, les trois options ouvertes. Mais je pense qu'il faut encore privilégier l'option politique et diplomatique avec le sommet de Kampala. On verra si le sommet ce soir est un échec ou plutôt un espoir.
Dominique Wert, nous allons poursuivre avec vous. Il est temps d'accorder la parole à quelques auditeurs qui se sont déjà fait enregistrer. Vianney qui est à Bukavu et Gaston à Kinshasa. Nous vous rappelons, chers auditeurs, vous pouvez également nous rejoindre à pa@radiokapi.net ou composer carrément le 081 890 43 39.
Parole aux auditeurs.
Vianney, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Bonjour.
Voilà, les experts de l'ONU ont à nouveau renouvelé leurs accusations des pays impliqués dans la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, que vous inspire ce rapport, quoique confidentiel, au moment où l'Ouganda est désigné par la CIRGL comme facilitateur au conflit?
Et avant tout, je voulais féliciter la MONUSCO pour le rapport qu'ils font faire sortir qui implique l'Ouganda de l'agression du Congo. Mais ce dont je pourrais recommander à la autorité de chercher d'autres pistes de solutions, car je ne vois pas l'importance d'avoir des voisins qui nous redressent chaque jour. Alors que c'est dans leur pays que nous tenons des sommets pour chercher de la paix dans notre pays. Alors, nos autorités pourraient chercher d'autres pistes de solutions pour voir comment changer nos frères qui sont toujours victimes, alors que vous.
Voilà, c'est vrai, on a du mal un peu à saisir votre position, Vianney, et surtout, bon, nous avons rétabli simplement que vous avez parlé de, vous avez félicité la MONUSCO, mais nous vous rappelons que c'est un rapport des groupes d'experts, hein, des Nations Unies, qui ont travaillé d'ailleurs depuis le mois de juin, le rapport était sorti, et puis finalement, ils ont confirmé le soutien de Rwanda, et particulièrement de l'Ouganda, en ce qui concerne le matériel, et aussi un soutien à un homme qu'ils apportent aux rebelles du M23, qui aujourd'hui on l'appelle armée révolutionnaire du Congo. Merci Vianney. Nous prenons Gaston qui est à Kinshasa. Bonjour Gaston.
Oui, bonjour à tout le monde.
Oui, Gaston, vous avez suivi Vianney qui regrette en tout cas le fait que Kampala, où abrite les sommets pour chercher en tout cas les voies et moyens de pacifier la partie est de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, on a l'impression que l'Ouganda est impliqué dans cette situation. Ça risque de porter encore préjudice, hein, par rapport à l'action que va mener l'Ouganda dans ces conflits.
D'accord, merci pour cette opinion. Moi, à mon avis, je constate la minimisation de la situation en RDC. Ici, je voulais préciser une chose, c'est qu'avant toute chose, nous devons avoir l'idée sur la manière dont les choses fonctionnent au niveau des Nations Unies, étant donné qu'il s'agit d'un rapport publié par les experts des Nations Unies concernant la situation en RDC. Aux Nations Unies, en soi, nous savons que lorsqu'il y a un conflit, les États peuvent saisir le Conseil de sécurité afin que le Conseil puisse favoriser une solution. Ici, c'est le chapitre 7, disons, de la Charte des Nations Unies, favoriser une situation, disons, une solution pour régler ces différends-là pacifiquement. Mais là, il n'impose pas une solution aux différends. Dans le cas du chapitre 7, là, moi, je pense que c'est là où se situe la situation en RDC. lorsque les conseils constatent qu'il y a menace contre la paix, il y a rupture, menace de rupture aussi contre la paix, ou un acte d'agression, les conseils doivent maintenant agir. Mais comment est-ce que les conseils agissent? Les conseils procèdent, là on dit, par inaction. Inaction, ça veut dire, ici je vais parler de la qualification, parce que le problème à notre pays, c'est au niveau de la qualification. Il faut que les conseils, ou soit l'ONU, arrivent à qualifier la situation en RDC. Il s'agit de quoi? Menace contre la paix, rupture, il s'agit d'un acte d'agression ou quoi? Pour que nous puissions savoir comment est-ce que le Conseil de sécurité va agir. Bon, vous allez constater que jusque-là, ce sont les experts. Et vous parlez d'un rapport confidentiel, à mon avis, du fait que nous battons, nous connaissons déjà les contenus de ces rapports par votre intermédiaire, ce n'est plus confidentiel. Disons, dans les cas d'espèce, les experts sont descendus sur terrain pour voir la situation. En soi, c'est un stade de la matérialisation des faits, que les conseils de sécurité souvent procèdent par ça. On matérialise les faits ou après on applique la qualification à ces faits-là. Disons, les experts sont venus, ils ont matérialisé les faits, c'est ce qui est dit. Mais qu'est-ce que le conseil de sécurité va faire à la suite par rapport à cette... Et si c'est vrai que les gens sont en train de tuer les gens ici, il y a des criminels qui violent les droits internationaux humanitaires ainsi que les droits de guerre, les gens là sont libres jusqu'aujourd'hui. Le conseil de sécurité doit prendre les mesures, si la situation est sérieusement, disons, est grave, en RDC, prendre les mesures de telle sorte que on voit là que le conseil en action, agir en vertu du chapitre 7, sinon, qualifier les faits et puis agir.
Oui, Gaston, s'il vous plaît, là, je vois venir, donc vous voulez parler de sanctions dans le sens qu'on puisse sanctionner directement le Rwanda et le l'Ouganda.
Oui, ici, je vais dire quoi? C'est que, on dit, il y a un rapport d'État en État. Quand vous dites, l'Ouganda, c'était d'abord le Rwanda, l'Ouganda et le Rwanda sont impliqués dans un conflit qui s'opère en RDC. On suppose qu'il faut qu'on arrive d'abord, lorsqu'on cite les noms d'État, qu'on arrive d'abord à établir la responsabilité de ces États-là conformément à la charte. Parce que l'ONU, ou soit les agissements des membres de l'ONU, sont fondés, soit tirent leur source dans la charte, dans les instruments qui régissent ces matières-là. Donc, on doit, à mon avis, ici, déterminer d'abord la responsabilité. Il s'agit de quelle responsabilité à l'encontre de ces États-là. Après ça, appliquer la procédure comme nous voyons. Et je vais aussi dire une chose. Vous savez que ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'était en 1998, lorsqu'on criait comme fond non scientifique, ici non intellectuels, crier agression, les Rwandais, il y avait des faits. Mais jusque-là, les conseils ne réagissaient pas. Il est venu réagir en retard, et à part ça, aujourd'hui, on crie pour une création d'un tribunal pénal international concernant ces affaires-là. Et vous savez qu'à l'époque, il y a eu des créations d'autres tribunaux internationaux ailleurs, mais on n'a pas, disons, on ne s'est pas intéressé à la situation concernant la RDC. Donc c'est cette allure-là que je suis en train de constater encore ici, à l'encontre du Conseil de sécurité, mais aussi nos autorités. On constate comme si, eux aussi, ils minimisent l'affaire, comme si ils ne sont même pas au courant. Ce sont des petits-enfants qu'on est en train de manipuler, qui ne savent pas comment la situation évolue. Et nous, pressons, voyons que non. Ce sont des enfants utilisés au détriment de la population congolaise.
Voilà, Gaston, je crois qu'on va s'arrêter là avec vous, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent aussi à intervenir dans cette émission, au cours de cette émission. Merci d'avoir appelé, Gaston, de Kinshasa. Franck appelle depuis Vienne, en Autriche. Bonjour, Franck.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour à tous les compatriotes congolais.
Voilà, Franck, vous partagez le même avis que Gaston, qui, lui, souhaite que, d'abord au niveau du Conseil, qu'on puisse qualifier la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, et ainsi établir les responsabilités par après, pour qu'au finish, on puisse sanctionner les uns et les autres qui sont directement impliqués par rapport au conflit. Mais aujourd'hui, c'est vrai, Kampala a été désigné par la CIRGL comme facilitateur dans la résolution du conflit, donc dans l'est de l'RDC. Est-ce que vous pensez que aussi ce rapport risque de d'enlever un peu le crédit de l'Ouganda dans ces conflits?
Oui, monsieur le journaliste, mais vous vous souviendrez qu'au mois de juillet, nous avons c'était une raison qu'on démontrait un peu les attitudes passives de nos autorités, parce que il y a des dirigeants congolais qui ne voulaient même pas d'abord reconnaître qu'il y a eu implication soit du Rwanda, soit de l'Ouganda, ainsi de suite. Puis le fameux rapport a fait que tout le monde puisse se placer devant ses responsabilités, et ainsi la liste commence à s'allonger. Mais quelle lecture fait de tout ce qui se passe là? Moi, je crois que les compatriotes qui venaient d'intervenir sont en train de thématiser ce qui se passe là. Moi, ce qui me fait mal, c'est le fait de voir que il y a une chaîne de complicité, une chaîne de ramification avec des complicités au niveau national et international. Mais je ne veux pas d'abord chercher à condamner cette complicité au niveau international si nous savons déjà qu'au niveau national, il y a des complices qui font semblant de ne rien comprendre. Donc, est-ce que nous devons d'abord vous demander, c'est pour la première fois que l'Ouganda cherche à déstabiliser la RDC. C'est-à-dire que depuis plus de 10 ans, l'Ouganda a toujours cherché à déstabiliser la RDC. Mais ce qui fait mal, nous voyons des sommets se tenir là-bas, nous voyons nos responsables aller participer à toutes ces rencontres, mais on ne sait pas exactement ce qui se dit là-bas, ce qui se décide là-bas. Donc, on va tenir un sommet aujourd'hui, après, il y a encore des fameux rapports. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a une certaine complicité au niveau national, donc cette situation est en train d'arranger tous ces gens-là. Mais moi, j'aimerais que vos journalistes, que vous tendiez aussi vos micros à nos responsables qui osaient démentir sur vos chaînes, sur vos ondes, qu'il n'y avait aucune implication, soit du Rwanda, soit de l'Ouganda. Alors, nous avons des parlementaires, mais moi, je peux leur poser la question. Il y a quelques jours, on avait interpellé le vice-ministre de la Défense ou le ministre de la Défense. On a essayé de le protéger. Mais quelle lecture peut-il faire à base de ces rapports? Donc, nous avons des gens qui pensent peut-être à leur poche, qui ne pensent pas à la misère du peuple. À l'être là, les gens souffrent. Mais nous avons des autorités qui font semblant de ne rien comprendre. Moi, je crois qu'il ne faut pas d'abord chercher à comprendre ce que les Nations Unies veulent. Non! Qu'est-ce que les gens congolais veulent par rapport à la misère de leur peuple? C'est par là qu'il faut commencer. On ne doit pas continuer à nous tromper comme ça.
Oui,
nous savons qui est derrière cette histoire-là.
Oui,
et on doit quand même dire que c'est elle.
Oui, Franck.
Pourquoi cacher le mot? Vous le savez.
Oui, Franck, s'il vous plaît, parce que là, sur les ondes des Radio Capi, et si vous scrutez quand même de fond à comble la grille de Radio Capi, nous avons quand même une émission Dialogue entre Congolais, et au cours de cette émission, il y a quand même les autorités qui passent, hein, vous mettez quand même en contact sur la position des uns et des autres, en tout cas sur le plan politique, de son décloche. Vous avez la position de la majorité, vous avez également la position de l'opposition, ainsi que la position de la société civile, au cours souvent de ce genre de débats. Et parole aux auditeurs, vous accorde aussi la parole, vous, en tant que, disons, population, que vous émettez aussi vos points de vue. Donc, d'une manière ou d'une autre, on vous associe quand même à ces débats, et les uns et les autres arrivent quand même à donner aussi leur position. Merci, Franck, mais nous retenons que vous n'êtes pas favorable à la position des Gaston qui parlait tout à l'heure, de commencer d'abord par qualifier et aussi sanctionner par la suite. Mais selon vous, il faut que la position de l'autorité congolaise soit connue, hein, qu'on ne parle pas par quatre chemins, qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne, en Autriche. Grâce, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Wan.
Voilà, c'est pas monsieur Wan, hein, c'est J.R. Lugebo. Voilà, Grâce, vous êtes à Kinshasa. Ouais. C'est vrai, nous parlons aujourd'hui de rapport des experts de l'ONU, un rapport qui est encore confidentiel. Et dans la version finale de ces rapports, mis à part le Rwanda, l'Ouganda est aussi impliqué dans le soutien matériel et en hommes qui ne cesse d'apporter aux rebelles du M23 qui s'est mieux aujourd'hui. On parle de l'armée révolutionnaire du Congo, la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ces rapports?
Ouais, je voudrais dire ceci. D'abord, trop c'est trop. Avec l'allure où vont les choses, nous risquerons d'assister à une balkanisation hors de toute expression de ce pays. Alors, il serait nécessaire que le gouvernement et tous les ministères possibles puissent s'organiser et braquer leurs yeux vers l'Est du pays. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'on puisse gaspiller de grandes sommes pour organiser des sommets, des histoires comme ça, pendant qu'à l'Est du pays, la situation continue de s'empirer. Messieurs, je voudrais dire, d'abord, il fallait d'abord commencer par délocaliser ces sommets de Kampala pour Kinshasa, pour que la solution soit trouvée ici. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un sommet qui s'organise à Kampala, un pays qui organise des exactions, des histoires comme ça, à l'Est du pays, on va organiser les sommets pour aboutir. Aboutirait à quoi? Mais je voudrais d'abord proposer ceci, que ce sommet-là puisse être organisé ici à Kinshasa et la communauté internationale doit prendre ses responsabilités en main ainsi que le gouvernement. Le Rwanda, le Kampala et le Luganda étant les responsables des actions à l'est de la République doivent être le plus vite que possible sanctionnés et nos autorités doivent laisser leurs vestes de côté et leurs cravates, prendre des armes et nous... Du point de vue démographique, du point de vue guérirait, du point de vue superficiel, le Rwanda, l'Ouganda ne présente rien par rapport à la RDC. Je ne minimise pas ces états-là, mais je voudrais que nous promettre de faire à cette histoire de l'Est. Et nos autorités doivent prendre.
Voilà,
et la communauté internationale doit aussi prendre les décisions pour mettre le plus possible la fin à cette situation que nous vivons à l'époque. Parce qu'il faut cette commission.
Merci beaucoup, Grâce, d'avoir appelé les Kinshasa. Nous retenons que, selon vous, hein, lorsqu'un pays ou une personnalité chargée d'assurer la médiation ou la négociation entre des belligérants est cité dans un rapport comme étant des mèches avec l'un des belligérants, il ne faut pas être juge pour comprendre que la crédibilité de ces négociateurs est fort douteuse. Donc, et là, vous proposez d'ailleurs la délocalisation du sommet qui se tient à Kampala. Merci Grâce. Nous terminons cette série des auditeurs avec Dieu Merci qui est à Bounia dans la province orientale. Dieu Merci, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Alors vous êtes dans les débats, que vous inspire ce rapport, quoique confidentiel jusque là, au moment où l'Ouganda est désigné par la CIRGL comme facilitateur dans la résolution du conflit à l'RDC?
En fait, je pense que ce n'est pas des rapports qu'il faut prendre à la légère. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent autour de cette situation. Mais ce n'est même pas à cacher, les Ougandais et les Rwandais sont effectivement dans tout ce qui nous arrive, tout ce que nous voyons à l'est de la République du Congo. Et notre gouvernement, le gouvernement de la République du Congo ne doit pas prendre cette situation à la légère. Et je vois de ma part que c'est une grande erreur que la CIRGL est en train de commettre à désignant les rois et les Uganda comme les médiateurs dans un conflit. Parce que comment voulez-vous que quelqu'un qui travaille sur le compte de l'autre puisse encore être joué très bien la médiation? Je pense que c'est juste le semblant. Alors la CIRGL de Santar aussi doit revoir d'abord cet aspect des choses. Il faut nécessairement que le gouvernement tienne compte parce que je trouve que ce rapport est juste et ce rapport doit être pris au sérieux par le gouvernement de notre pays. Sinon, chaque fois nous allons assister toujours à des scénarios pareils, chaque jour les Ougandais, c'est la même chose qui s'est passée ici chez nous en Italie, où les Ougandais étaient, ils ont pris les histoires, ils sont partis avec la chose du Congo comme si c'était leur propre histoire. Alors moi je pense à mon même de la vie que notre gouvernement doit en tenir compte, ce n'est pas une situation qu'il faut prendre à la légère.
Voilà, merci, Dieu merci d'avoir appelé de Bounia dans la province orientale. 081 890 4339 pour participer à ces débats.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Capissoir.
Voilà, nous avons tout suivi la première série des auditeurs. Il y a eu Gaston, Franck, Vianney, Grâce à Kinshasa et Dieu merci dans la province orientale, plus précisément à Bounia. Ben, s'il faut résumer les interventions des uns et des autres, avant d'ailleurs d'accorder la parole à notre invité, Gaston qui a insisté sur la qualification d'abord du conflit, est-ce s'agit là d'une agression ou d'une rébellion ou de quelle nature ces conflits? Il faudrait que tout cela soit qualifié avant même de sanctionner les uns et les autres, donc ceux qui seront responsables dans cette crise. Voilà. Et puis, il y a Grâce de Kinshasa qui a insisté sur l'aspect crédibilité. Lorsque un pays ou une personne chargée d'assurer la médiation ou la négociation entre deux belligérants est cité dans un rapport comme étant des mèches avec l'un des belligérants, il ne faut pas être juste pour comprendre que la crédibilité de ces négociateurs est fort douteuse. Donc, lui, il a proposé qu'on puisse délocaliser les sommets des Kampala. Il y a eu Kampala 1, Kampala 2. Alors il est temps qu'on puisse délocaliser le lieu de l'organisation de ce sommet. Évariste, vous êtes à Kananga et Maurice à Kinshasa. Évariste, bonjour.
Bonjour, monsieur journaliste.
Est-ce que vous partagez les avis, le même avis que vos prédécesseurs?
Bon, moi, quand je lis ce rapport, pour moi, ce rapport n'a pas sa raison d'être. Parce que l'ONU a ses propres troupes déployées sur le terrain, à peu près 17 000 hommes, faut-il le rappeler. Mais elle a l'obligation d'aider la RD Congo pour sortir dans cette crise. L'implication du Rwanda, d'accord, mais les troupes négatives telles que FDLR, Maïmaï, M23, Finda et d'autres militaires, pourquoi l'ONU ne s'intéresse pas à cela pour trouver une solution vis-à-vis de l'agresseur? Ceci n'est pas une condamnation non plus, mais vous-même vous le savez, vous avez vous-même constaté que monsieur le président excellence, oui, Paul Kagame, a séché la rencontre de New York. Par après, on prend Rwanda comme membre permanent du Conseil de sécurité. Ce n'est pas un scénario politique, faut-il dire. Pourquoi, pour moi vraiment, monsieur le journaliste, que notre gouvernement puisse doter notre armée congolaise de moyens conséquents pour affronter ce petit pays jusqu'à sa demeure. Voilà un peu ma contribution à ce qui concerne ce rapport de l'ONU.
Voilà, donc vous avez parlé de scénario politique, hein, du fait que le Rwanda soit désigné au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Hein, en tout cas, ça vous inquiète un tout petit peu, au moment où le Rwanda est cité énormément dans ce rapport, et actuellement on vient d'ajouter l'Ouganda sur la liste, et l'Ouganda qui est aussi désigné comme médiateur dans le conflit, dans la résolution du conflit. Voilà, merci beaucoup Évariste d'avoir appelé les Kananga. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Capi.
Bonjour, JF.
Voilà, Maurice, comment réagissez-vous?
En fait, en commençant, je voudrais d'abord soulever un petit point sur ces rapports qui revêtent un caractère confidentiel. En fait, il n'y a rien de confidentiel en fait, dans ce rapport.
Donc, c'est pour vous un secret des polichinelles?
Oui, parce que c'est un secret des polichinelles. Grand, il faut parler, par exemple, du Rwanda. Pour l'Ouganda aussi, il n'y a pas longtemps où la société civile du Nord Kivu était en train de déclarer qu'il y avait la présence militaire ougandaise sur le sol congolais. Alors, je ne vois pas pourquoi même parler de caractère confidentiel dans ces rapports. Alors, il faut commenter sur ce sujet. C'est d'abord la façon dont cette question de cette guerre est traitée au niveau interne, comme le disait Franck Devienne. Hein. On sent toujours qu'il y a de la complaisance qui continue. Hein. On traite toujours cette question avec beaucoup de complaisance, comme l'a été dans la première session parlementaire. Et pourtant, ces parlementaires nous ont promis que cette fois-ci, cette question sera traitée avec beaucoup de sérieux. Mais qu'est-ce qu'on constate? Même une simple interpellation pour que le Premier ministre arrive au Parlement fournir des explications relatives à cette guerre. Non, on s'oppose par une majorité, je ne sais pas de quelle majorité il s'agit, on s'oppose à cette interpellation. Pourtant, une interpellation, c'est une démarche normale, constitutionnelle, parlementaire, où le Premier ministre devrait venir fournir des explications sur cette question de la guerre, où on ne sait pas comment cette question est en train d'être traitée. Dernièrement, vous avez assisté sur aussi la motion de défiance contre le vice-premier ministre, le ministre de la Défense. Vous avez vu ce qui a été. Il y a eu un arrangement à l'avance que non, il y aura une partie de la majorité, une vingtaine qui va appuyer l'opposition, mais une grande majorité va rester juste pour contrer cette motion, afin que cette motion ne passe pas. Pourtant, dans la réalisation, quand on constate comment cette question est traitée, on n'a pas une raison majeure pour que ces ministres continuent vraiment à garder cette fonction, hein, monsieur J.R.
Oui, allez-y.
Alors, dans les attitudes, même s'il faut prendre les attitudes, vous savez, dans la vie, il y a certaines attitudes ou signes qui ne trompent pas. C'est comme, par exemple, si je vais vous donner un exemple récemment au niveau du sommet de la francophonie. Vous avez vu Hollande garder une certaine distance avec le président Kabila. Il n'y a pas eu de sympathie particulière. Pourquoi? Parce que il a dit depuis Paris qu'il n'était pas d'accord sur la façon dont la politique est conduite au niveau du pays. Alors, nous, qu'est-ce qu'on constate avec le Rwanda? Il est aujourd'hui, c'est impossible de constater qu'il y a même une désapprobation du gouvernement congolais face à la politique du Rwanda, parce que les relations diplomatiques sont restées intactes. Aujourd'hui, l'ambassadeur du Congo est toujours en poste au Rwanda. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui prouve réellement que le Rwanda réellement est impliqué dans cette histoire-là?
Donc, Maurice,
donc il y a toujours de la complaisance dans cette histoire-là.
Voilà, je retiens que vous proposez au fait de signe hein, que la bonne foi de côté de notre les autorités congolaises pour remettre encore confiance la population par rapport à cette situation. J'ai comme l'impression que vous avez l'air un peu découragé. Vous dites que ben voilà, cette complicité ne donnera aucun résultat ça c'est satisfaisant et vous souhaitez que comme signe de bonne foi que d'ailleurs les diplomates congolais en poste au niveau de Rwanda puissent être rappelés à Kinshasa, ça serait une bonne façon de réagir hein, sur le plan diplomatique avant qu'on puisse s'engager encore à d'autres engagements. Merci beaucoup Maurice d'avoir appelé et nous rappelons encore notre numéro de contact, le 081 890 43 39, pour participer à ces débats.
Parole aux auditeurs.
Dominique Wirt, vous êtes à nouveau avec nous, vous avez suivi les uns et les autres, nous allons résumer quelques interventions. Gaston qui a insisté sur le fait qu'il faudrait d'abord commencer par qualifier ces conflits avant de sanctionner les uns et les autres qui sont impliqués dans cette situation. Et il y a Grace de Kinshasa qui est revenue sur la crédibilité de l'Ouganda aujourd'hui parce que en tant qu'un pays où lorsqu'un pays ou une personne chargée d'assurer la médiation ou la négociation entre deux belligérants est citée dans un rapport comme étant des mèches avec l'un des belligérants, il ne faut pas être juge, ça c'est selon Grasse, pour comprendre que la crédibilité de ces négociateurs est fort douteuse. Donc lui propose qu'on puisse délocaliser le sommet de Kampala. Il y a Kampala 1, Kampala 2. Voilà donc, il faudrait quand même qu'on puisse délocaliser les sommets, ça serait une solution. Et aussi, Franck qui insiste sur, aujourd'hui, on a remarqué Évariste qui parle de scénario politique, le fait que le Rwanda soit aujourd'hui désigné comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors comment vous réagissez-vous, Dominique?
Écoutez, moi je pense au moins à quatre choses. La première, c'est que je suis bien d'accord sur le fait que actuellement l'Ouganda est un petit peu assis entre deux chaises, puisque d'un côté il y a la communauté internationale des pays de la région des Grands Lacs, la conférence internationale des pays de la région des Grands Lacs, qui a en effet statué sur le fait que l'Ouganda devait être un des médiateurs, le pays médiateur dans le conflit à l'est du Congo, et en même temps, dans les jours vraiment concomitants, donc on est vraiment sur une conjonction de temps assez étonnante, on a le rapport des experts, du groupe des experts des Nations Unies, qui, dans son rapport, même s'il est confidentiel, dont on ne connaît pas encore le contenu, mais dont on sait quand même, puisque RFI à New York a pu en prendre connaissance, dont on sait quand même que l'Ouganda est lui-même pointé par ce groupe des experts comme étant un des pays qui soutiendrait l'armée révolutionnaire du Congo, voire peut-être d'autres groupes armés irréguliers au Congo. Alors évidemment, c'est une posture qui est un tout petit peu compliquée pour l'Ouganda, puisque d'un côté on lui demande d'être médiateur et de l'autre côté on considère qu'il est lui-même acteur de la déstabilisation. Alors moi je pense que une des manières peut-être de pouvoir justement pousser l'Ouganda dans ses contradictions extrêmes, ben c'est justement de respecter la décision de la conférence internationale des pays de la région des Grands Lacs et de voir maintenant qu'il va devoir prendre cette posture et cette responsabilité de médiateur, mais comment est-ce qu'il va gérer cette médiation? Et on va voir, à mon avis, très très vite qu'il y a des contradictions et si, au cas où il est en effet impliqué, comme le dit le groupe des experts du comité 1533, s'il est impliqué dans la déstabilisation du Congo, on va voir très vite s'il est fair play, entre guillemets, dans la médiation et dans le rôle et la responsabilité de médiateur que la CIRGL lui a donné. Sur la la délocalisation, moi je ne pense pas que ce soit une excellente idée. Je pense que plus on va externaliser les lieux de rencontre en dehors de la région des Grands Lacs, plus on va avoir des questions de distance qui font que les personnes véritablement impliquées risquent de se déresponsabiliser. Donc moi je pense que c'est plutôt intéressant de maintenir ce genre de rencontres au plus haut niveau, puisque ce sont les chefs d'État qui se retrouvent. Je pense que c'est plutôt une bonne idée de la garder dans la région des Grands Lacs. C'est un avis d'occidental ici installé en Belgique bien confortablement. Donc moi je ne dis pas que c'est ça qu'il faut nécessairement faire, mais je pense que c'est une bonne idée de maintenir les dynamiques de résolution de conflits dans la région là où les conflits ont lieu. Si on mettait la conférence à Nairobi, on a vu que ça n'a pas tellement bien marché non plus. Il y a eu plusieurs rencontres à Nairobi qui ont eu lieu et ça n'a pas été un succès. Si on la met encore plus loin du côté du Caire ou du côté d'Addis Abeba au niveau de l'Union africaine, je ne suis pas sûr non plus que ce soit une très bonne idée. Je pense que l'idée de maintenir ces rencontres dans la région des Grands Lacs est plutôt une idée intéressante.
Mais l'idéal,
sur le Rwanda, je pense qu'il y a une réelle hypocrisie de la communauté internationale, parce qu'il faut savoir que dans le fonctionnement des Nations Unies, et notamment du comité du Conseil de sécurité, vous savez bien que le comité 1533, qui a été mis en place par la résolution 1533 en 2004, et qui est ce comité qui doit évaluer les sanctions éventuelles que certains éléments qui déstabiliserait l'Est du Congo, il faut savoir que ce comité est sous la responsabilité directe du Conseil de sécurité. Ce qui veut dire que les 15 membres, les 10 membres qui ne sont pas permanents, plus les 5 membres permanents, ont le contrôle direct sur ce comité des sanctions par rapport à la RDC et au Kivu. Ce qui veut dire que demain, donc c'est-à-dire au 1er janvier 2013, comme le Rwanda a été élu par l'Assemblée générale des Nations Unies, représentant du continent africain pour 2 ans au sein du Conseil de sécurité, le Rwanda va être partie prenante dans le contrôle du comité de sanctions, dont on sait que le Rwanda est en tout cas un des États pointés du doigt par ce comité de sanctions et par le groupe des experts qui, lui, est mis en place par le comité de sanctions. Puisque le comité de sanctions, ce ne sont que des représentants diplomatiques des 15 pays qui font partie du Conseil de sécurité. Ces 15 pays, avec le secrétaire général des Nations Unies, ont nommé un groupe d'experts. Ce groupe d'experts change tous les 2 ans. Nous avons actuellement 8 personnes qui sont dans ce groupe d'experts, et ce sont ces 8 personnes qui viennent de signer le nouveau rapport, qui est confidentiel pour le moment, dont on n'a pas encore
le contenu,
mais dont on sait qu'il a été déposé Conseil de sécurité le 12 octobre. Et donc, il est évident que le fait que les pays et les membres des Nations Unies, au niveau de l'Assemblée générale, ont voté l'accession du Rwanda dans le Conseil de sécurité pour 2 ans, dans une période aussi troublée qu'en ce moment, où on voit bien que le Rwanda est quand même un des pays co-responsables par le soutien financier, militaire, politique à des groupes rebelles pour déstabiliser le pouvoir de Kinshasa, notamment avec des actions contre les populations civiles à l'est de la République démocratique du Congo, mais on voit bien que maintenant que ce pays se retrouve au Conseil de sécurité, ben, il va être jugé parti encore beaucoup plus que la médiation dont l'Ouganda a été mandatée par la conférence internationale des pays de la région des Grands Lacs. Et donc là, on est, je pense, dans une hypocrisie, et je trouve que le ministre des Affaires étrangères belge, qui ce matin a expliqué que la Belgique s'était abstenue au moment du vote à l'Assemblée générale des Nations Unies sur le fait que le Rwanda était candidat au Conseil de sécurité comme membre non permanent, en disant que la Belgique s'était abstenue parce que le Rwanda était pointé du doigt par le comité de sanctions, je trouve que c'est une position un peu faible, parce que l'abstention ne veut pas dire non. L'abstention, ce n'est pas un refus. Et je pense qu'il y a certains pays, dont la Belgique, qui auraient dû, dans le cadre actuel du vote des Nations Unies, avoir une position beaucoup plus tranchée sur le fait que, dans la position actuelle, ça n'a rien à voir sur le fait que le Rwanda n'est pas compétent, n'est pas capable pour siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça n'a
rien
à voir avec
ça. Parce que le Rwanda était
à voir simplement avec la conjonction, le calendrier, et le fait que dans la période actuelle, c'est évidemment un mauvais signal qu'on envoie sur une transparence, sur une équité,
dans la gestion,
sur un équilibre dans la...
dans la recherche de la paix ou la résolution
de l'Est du Congo.
Voilà, Dominique, vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études en sciences politiques de l'Afrique centrale à l'Université de Liège et vous intervenez depuis Liège. Nous avons des auditeurs qui nous ont rejoints. Hadji qui est à Kindu au Maniema, Jean-Cy à Lubumbashi au Katanga. Bonjour Hadji.
Bonjour Gérard, bonjour les invités aussi.
Voilà, Hadji, vous nous avez suivis, vous avez souhaité intervenir dans cette émission consacrée au rapport, disons, des experts des Nations Unies qui accusent à nouveau le Rwanda et plus particulièrement l'Ouganda. Mais il s'est fait malheureusement que l'Ouganda a été désigné par la CIRGL comme l'un des médiateurs dans la résolution des conflits dans l'est de la République démocratique du Congo. Comment vous réagissez-vous, Hadji?
Oui, d'après moi, je vois que trop, c'est trop. C'est-à-dire, toute action aussi est nuisible. Par rapport à ça, moi aussi, je partage le même idée comme le prédécesseur. C'est-à-dire, le Congo doit être...
Voilà, dommage, Hadji n'est plus en ligne. Jean-Cy, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga. Bonjour, Jean-Cy.
Oui, bonjour. Bonjour la Radio Kapi, bonjour tous les auditeurs et la Radio Kapi et l'invité.
Voilà, est-ce que Jean-Cy, vous partagez le même point de vue que vos prédécesseurs ou peut-être vous avez un autre élément nouveau dans l'analyse que vous allez faire par rapport à ces rapports? Que vous expliquez ces rapports?
Oui, c'est que nous, on est en train de regretter ici dans notre pays. Moi, je salue les rapports de nos experts, ce qu'on a déclaré, parce que ce qu'on est en train de regretter, voyez, on a notre ambassadeur là-bas en Rwanda.
Au Rwanda, oui.
D'ailleurs, notre gouvernement, il voulait toujours suspendre les gens qui étaient en train de se promener. Voyez d'abord ce qui s'est passé à l'Assemblée. Il y a les gens qui voudraient d'abord, il y a les députés qui voudraient suspendre les ministres. Maintenant, voyons ceux qui ont au pouvoir de la majorité, il a fait quoi? Il a sauvé ses ministres, mais les ministres ont géré la guerre là-bas. Voyons ce qui se passe ici chez nos Congo.
Voilà,
ça veut dire que cette guerre ici qui se passe ici chez nos Congo n'est pas encore à mesure que les gens de la majorité peuvent résoudre. Non, ils peuvent laisser ceux-là qui ont l'opposition qui les résoudent tous ensemble.
Voilà, un peu du mal à comprendre un peu votre intervention, mais c'est que nous retenons que vous proposez que la question dans l'Est de la République démocratique du Congo soit traitée avec tous les sérieux possibles au niveau du Parlement, au lieu qu'on puisse avoir des contenus qui ne concernent pas directement la population actuellement par rapport à la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci Hadji. Nous prenons Ernest qui est à Matadi dans le Bas-Congo. Bonjour Ernest. Voilà Ernest, vous avez suivi vos prédécesseurs, comment vous réagissez personnellement?
Bon, je crois qu'ils ont raison, mais moi je note un esprit, une certaine naïveté de notre part. Lorsqu'on lit l'histoire, Mouzé prétend serment Kinshasa à l'époque, le président ougandais Yoweri Museveni avait dit qu'ils ont porté Mouzé au pouvoir à Kinshasa pour gérer le Congo ensemble. Et c'est cette politique que il est l'unique qui est décédé dans cette région, et Bouzé est parti, Kagame est resté avec le pont, et aujourd'hui notre naïveté, c'est qu'on se dispute sur le Congo avec les ennemis qui ont des agendas cachés. Donc nous sommes en train de perdre le temps avec ce genre de gens, Kampala, Ouganda, Rwanda, tout ça, c'est la distraction pure et simple pour notre pays. Les autorités congolaises doivent prendre les choses en main, pour dire la vérité à la population congolaise, pour quelle décision prendre, pour effacer tout ce qui est déjà. Sinon, nous allons perdre à cause de ces gens qui ont des agendas cassés et qui nous détruisent de temps en temps. Donc voilà rapidement comme il y a plus de temps.
Merci beaucoup Ernest. Dominique, vous êtes notre invité. Il y a eu une question qui était restée pendante. C'était la préoccupation de Gaston. Hein. Gaston qui, après avoir fait l'analyse, a parlé de la première étape à suivre, c'est-à-dire la qualification d'abord de ces conflits avant de sanctionner les uns et les autres. Donc il faudrait bien définir. Il s'agit là d'une agression ou d'une simple rébellion. Voilà, donc c'est au fait, si on détermine cela, c'est qu'à ce moment-là qu'on peut également chercher des responsabilités des uns et des autres pour enfin proposer des sanctions, Dominique Wert.
Alors, le groupe, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le groupe d'experts, donc, qui a été nommé par le secrétaire général et avec l'assentiment, évidemment, du Conseil de sécurité des Nations Unies et du comité 1533, qui regroupe les représentants diplomatiques de ce Conseil de sécurité, des ambassadeurs des 15 pays qui composent le Conseil de sécurité. Ce groupe d'experts est mandaté pour un certain nombre de missions très très précises. Et je voudrais quand même souligner ici, j'en profite, puisque vous me posez la question, pour souligner que le groupe d'experts ne travaille pas uniquement sur l'analyse des responsabilités des États régionaux et donc qui bordent la RDC dans la déstabilisation et dans surtout le pillage, le commerce des armes illicites, etc. Le groupe d'experts travaille aussi sur les autres responsables de la déstabilisation à l'est du Congo et on sait bien qu'il n'y a pas que les États et que les groupes armés. Puisque aujourd'hui, on peut quand même considérer que si le conflit et si la déstabilisation durent depuis aussi longtemps, c'est qu'il y a un intérêt pour certains acteurs qui sont actifs dans la région. Et on sait très très bien que si les deux Kivu ne regorgeaient pas de ressources naturelles telles que c'est le cas aujourd'hui, il n'y aurait pas cette déstabilisation à l'est du Congo. On voit bien que les zones dans le monde qui ne sont riches en rien du tout n'ont jamais de conflit. Les conflits sont toujours là où il y a des richesses potentielles ou même réelles qui font qu'il y a des appétits, qu'ils soient des pays voisins, mais aussi de groupements, de groupes de sociétés, de compagnies internationales qui ont peut-être intérêt à ce que demain, les deux Kivu ne soient pas vraiment ou véritablement stables. Et donc ce groupe, il travaille aussi là-dessus. Et là-dessus, il y a eu des rapports très intéressants qui sont sortis sur l'implication des multinationales, qu'elles soient canadiennes, qu'elles soient états-uniennes, qu'elles soient étrangères, qu'elles soient anglaises, qu'elles soient européennes, qui évidemment aujourd'hui profitent de cette situation de déstabilisation à l'est de la RDC pour pouvoir s'enrichir sans trop de difficultés en puisant dans les ressources naturelles de la RDC et notamment des deux Kivu, mais aussi de l'est de la RDC à un sens plus large, c'est-à-dire le nord du Katanga, c'est-à-dire le Maniema, c'est-à-dire l'Ituri, c'est-à-dire la province orientale. Et donc, ce groupe d'experts, lui, il a comme mission de faire en sorte qu'on puisse déterminer quels sont les responsables de la déstabilisation. Après, ça monte au comité 1533, qui est ce comité de sanctions, qui doit faire des propositions de sanctions au Conseil de sécurité. Et puis, ce n'est qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, où on retrouve les 10 membres non permanents et les 5 membres permanents, qu'il y a éventuellement des décisions de sanctions qui sont prises, que ce soit à destination d'individus, à destination de groupements économiques ou non, que ce soit évidemment à destination de groupes militaires rebelles ou en tout cas informels, c'est-à-dire qui ne sont pas rattachés à une armée nationale, ou éventuellement que ce soit au niveau des États. Et alors, ce comité de sanctions détermine et propose au Conseil de sécurité quelles sont les sanctions qui peuvent être prises à l'encontre de toutes ces différentes formes de groupes qui déstabilisent l'Est du Congo. Et donc, il est évident que si aujourd'hui le rapport reste encore confidentiel dans le contenu, même si on en connaît les grandes lignes, dans le contenu, c'est parce qu'il doit passer encore par le filtre du comité de sanctions mis en place par la résolution 1533 et ensuite remonter au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Pour des sanctions.
Ce qui veut dire que vous comprenez qu'il va encore y avoir du temps, évidemment, avant que
voilà,
le Conseil de sécurité ne
voilà,
soit
Dominique.
Saisi de cette question-là.
Voilà, Dominique, merci d'avoir été des nôtres. Nous rappelons que vous êtes chercheur au Centre d'études et en sciences politiques de l'Afrique centrale à l'Université de Liège. Nous vous retrouvons très prochainement. À très bientôt, Dominique.
Allô? 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 Mais, ils ne répondent pas?
Nous vous remercions, chers auditeurs, vous qui avez souhaité d'ailleurs participer à cette émission. Vous nous avez écrit Patrick Ouasso de Bukavu, Elie Bariane à Kisangani, Teddy Mukendi Diez, Ken Lokange, Diamond Ucher Belinga, Abdallah Chabani, Anselme, Michel Chibangu Albumbashi, Clarisse Yaya et Sylvain Kunda depuis le New Delhi. Voilà, ce n'est qu'une partie remise. Nous allons lire peut-être vos mails très prochainement. Merci à tous également d'avoir participé à ces débats. Merci également à Dieudonné Nyangasa qui a assurer la mise en œuvre de cette émission. Pierre Lamégie l'a réalisée, Gilles Lungembo vous l'a présentée et coordonnée. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. La RDC est classée parmi les pays aux droits de douane le plus élevé à l'importation. Ceci intéresse parole aux auditeurs de demain. La question au centre du débat, comment peut-on arriver à changer cette situation? Pour participer à ces rendez-vous, inscrivez-vous déjà et faites-nous parvenir à l'adresse pa@radiocapi.net vos commentaires et préoccupations et vous pouvez également les poster sur notre page Facebook. À très bientôt.